8h10.
Bonjour, c'est Julien Rey, trois quarts centre de l'UBB. Toute l'actualité du rugby dans la mêlée du lundi jusqu'à 19h.
C'est donc parti pour 50 minutes de mêlée. Bonsoir Jérémy Marillier.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et même si c'est la fin du monde, donc en tout cas pour certains, on va continuer à parler rugby ce soir.
Mais la fin du monde, c'est comme ça que des journaux anglais ont qualifié l'élimination du 15 de la Rose. Une humiliation, un cataclysme. Ils y vont pas avec le dos de la cuillère. On va revenir sur la déroute de l'Angleterre dans un instant. On va bien sûr parler des Bleus avec ce choc dimanche face à l'Irlande. France-Irlande, la finale que tout le monde attendait pour la première place de la poule. On va débattre des forces en présence avec nos spécialistes. Et puis on va aussi se projeter sur les quarts de finale, hein. L'ogre néo-zélandais ou l'Argentine bête noire des Français. Une belle affiche à venir, ça c'est certain. Avec nous en studio pour en débattre ce soir dans la mêlée, Vincent Charlot, l'un de nos consultants rugby à France Bleu Gironde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Jean-Yves Saint-Séran, journaliste à Bordeaux 7 et Reuters. Bonsoir.
Bonsoir, how are you doing?
Very well, and you? Vous avez révisé votre anglais, c'est pas mal. Clément Carpentier de France Bleu Gironde. Bonsoir Clément.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Et puis en ligne avec nous depuis Cardiff où il suit la Coupe du Monde pour Radio France, Arnaud Carré de France Bleu Gironde. Bonsoir Arnaud.
Salut Jérémy, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Arnaud, content de vous retrouver. Et dans un instant, vous pourrez jouer et gagner alors plusieurs cadeaux. On a toujours les hors-série Sud-Ouest Coupe du Monde 2015 avec le grand défi des Bleus, évidemment. Et puis le livre Maillot et écusson rugby, histoire et anecdotes aux éditions de La Martinière. Livre très sympa co-signé par Benoît Kerzan et Jean-Luc Labourdette. On le mettra en jeu celui-là juste après 18h30 au début de la seconde partie. Voilà, vous saurez tout ce qui se cache derrière les couleurs des maillots et les écussons de vos équipes préférées.
France Bleu Gironde, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles.
Jérémy Marillier, tout d'abord, l'Angleterre qui s'est réveillée avec la gueule de bois.
Hein. Eh oui, et pour démarrer cette mêlée, eh ben, on va se recueillir un petit peu. La marche funèbre pour accompagner le cercueil de l'Angleterre, éliminé de sa Coupe du Monde, humilié sur ses propres terres dans sa Coupe du Monde. Les Anglais sortis dès les phases de poule après leur nouvelle défaite samedi 33-13 face à l'Australie. Arnaud Carré, vous qui êtes à Cardiff, au Pays de Galles, pas très loin de cette Angleterre touchée par la fin du monde selon les médias. Est-ce que les Anglais ont un peu séché leurs larmes depuis cette humiliation samedi soir? Dites-nous tout.
Ils ont un peu séché les larmes, sans doute, mais ils se sont surtout remis dans le rouge, puisque au-delà de la déception, de l'énorme déception représentée par cette élimination, hein, pour ce qui devait être 5 Coupes du Monde, et bien l'Angleterre doit maintenant faire face à d'autres soucis, le règlement de compte dans les médias, les querelles intestines au sein de sa propre fédération, avec notamment cette question, doit-on ou non conserver Stuart Lancaster à la tête de l'équipe, et puis cette nouvelle affaire qui est tombée cet après-midi avec cette enquête ouverte par le World Rugby pour un manquement au protocole à la mi-temps du match face aux Australiens.
Justement, deux mots sur cette enquête. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il semblerait que des entraîneurs anglais soient allés voir les arbitres à la mi-temps du match face à l'Australie, c'est ça?
En fait, selon les médias britanniques, sont deux membres du staff anglais qui sont allés voir non pas les arbitres, mais des officiels du match. La scène se serait passée donc à la mi-temps dans le tunnel qui sépare la pelouse des vestiaires de Twickenham. On n'a pas de nom. On sait simplement qu'il ne s'agit pas de Stuart Lancaster, l'entraîneur en chef. On n'a pas de précision sur le contenu de cette conversation, mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que c'est strictement interdit par le règlement. On se souvient que l'an dernier, Michael Checa, leur entraîneur des Waratahs en Super Rugby, avait eu ce comportement. Il avait été vertement rappelé à l'ordre. Donc, pour le moment, pas de soupçon de tricherie, de corruption de la part de World Rugby. Mais l'instance internationale va mener son enquête pour savoir ce qui s'est dit entre les membres du staff anglais et les officiels de la Fédération internationale.
Non, on en saura plus dans les prochaines heures, sans doute. Jean-Yves Saint-Séran, ce climat voilà, autour de l'Angleterre après cette élimination, c'est le signe vraiment qu'il s'est passé un cataclysme, hein, au-delà de cette affaire, cette polémique, hein, à la mi-temps avec l'Australie.
C'est pire que si l'Angleterre était morte. Hein. je pense que pour les véritables amateurs de rugby, l'état de cette équipe, ne fût-ce qu'au départ de la deuxième mi-temps, on était quasiment tous persuadés que l'Angleterre allait revenir. Voilà, c'est surtout toute l'attente qu'il y a eu durant cette deuxième mi-temps, avec l'essai de Watson qui a mené à un espoir fou. Mmh. Et puis voilà, ça ne passe pas, et tout le monde s'est écroulé. Moi, personnellement, j'aurais pris du chocolat.
Du chocolat, pourquoi? Vincent Charlot, pareil, cette équipe d'Angleterre, elle s'est écroulée face à l'enjeu. Elle n'a pas eu le poids, le talent nécessaire pour vaincre cette équipe d'Australie, tout simplement. Elle n'était pas au niveau.
Je pense effectivement, si elle sort de la compétition, c'est qu'elle n'était pas au niveau. Mais on avait placé énormément d'espoir sur elle. Les quatre dernières années, elles étaient quand même plutôt positives. Quand on voit les stats de Stuart Lancaster, il avait bâti une équipe jeune et compétitive sur ces quatre dernières années. La pression était sur l'épaule des Anglais de recevoir la Coupe du Monde chez eux. Je pense que la petite erreur de parcours du Pays de Galles les a plongés au fond du gouffre et ils n'ont pas été en mesure de répondre présent face à des Australiens qui ont été particulièrement performants sur le match.
Vous parlez du Pays de Galles, justement, on va y retourner avec vous, Arnaud Carré. Les Gallois, comment ils ont accueilli cette défaite anglaise? On imagine que dans les rues, dans les pubs, il y avait pas mal de joie.
Là, c'était la folie samedi soir dans les pubs ici à Cardiff. Hein, les supporters gallois, ils ont bu du petit lait et je peux vous garantir qu'ils ont bu aussi autre chose.
Que du petit lait ou... Oui, voilà, c'est la question.
C'est vrai que, voilà, par ricochet, hein, cette défaite de l'ennemi héréditaire les qualifie pour les quarts de finale. Après, à la décharge de cette équipe d'Angleterre, faut reconnaître aussi qu'elle est tombée dans un groupe impossible. Le Pays de Galles, l'Australie, les Fidji, qui même s'ils sont une nation du deuxième rang, pompent énormément d'énergie quand vous les affrontez. Et c'est vrai qu'il y a aussi ici une discussion sur le tirage au sort, parce que le tirage au sort a été effectué il y a 3 ans, et au moment où le tirage au sort a été effectué, l'Angleterre était au 5e rang mondial, donc n'était pas tête de série, alors que la France, elle, à l'époque, était 4e et a donc pu bénéficier d'un groupe beaucoup plus facile. On ne sait pas, on ne saura jamais ce qui serait arrivé aux Français, aux Sud-Africains, par exemple, aux Écossais, s'ils avaient dû affronter aussi les Gallois et les Australiens en phase de poule. Ça n'excuse pas tout. C'est vrai qu'il y avait cette pression énorme qu'ils n'ont pas su assumer, mais cette équipe d'Angleterre, elle avait quand même une grosse, grosse adversité dans cette phase de poule.
Arnaud, la pression, elle n'est pas retombée. On le voit rien qu'en lisant les journaux britanniques. Et puis sur Twitter, la twittosphère se déchaîne littéralement contre le 15 de la Rose.
Bah, bien évidemment, je pense que la déception, elle est à la hauteur de l'attente, c'est-à-dire que c'était énorme. Il y avait une équipe qui était pendant 4 ans construite pour gagner cette Coupe du Monde. Il y avait eu énormément d'efforts de la part de la fédération anglaise, de la part des clubs, hein, pour conserver les joueurs, pour les mettre dans des conditions idéales. Et tous les supporters rêvaient d'être dans les tribunes de Twickenham ou de faire la fête dans les quartiers de Richmond, pas trop loin du stade, le 31 octobre au soir. Donc c'est pour ça que je pense que le déferlement de déception puis de colère est tout à fait compréhensible.
Mais l'un des débats, Clément Carpentier, qui fait rage aussi aujourd'hui, c'est est-ce que l'Angleterre a eu raison de se priver de ces joueurs de top 14? La réponse, on peut la connaître, c'est facile de le dire après coup, mais des joueurs comme Nick Abandonon, comme Stephen Armitage, est-ce qu'il fallait les prendre, quitte à changer les règlements?
Bah, quand on voit la performance de la troisième ligne australienne contre les Anglais ce week-end, on peut dire que oui, hein, ça c'est clair et net, hein, parce qu'un joueur comme Stephen Armitage, le troisième ligne de Toulon, un vrai gratteur de ballon, quelqu'un qui bouge, qui perce, eh bien il aurait peut-être été à la hauteur de Pocock et Hooker, les troisième lignes australiens, alors que là ils avaient mis des gros bébés. Alors c'est bien d'avoir des gros bébés, mais si vous récupérez pas la balle au sol, c'est compliqué de l'avoir derrière pour pouvoir jouer. Donc c'est sûr et certain qu'à ce niveau-là, ils se sont plantés. D'ailleurs, les Australiens, eux, ont inventé une règle l'année dernière pour pouvoir faire jouer ces joueurs qui sont venus en France comme Matt Guiteau. Exactement, et qui retournent jouer avec leur équipe nationale parce qu'ils ont plus de 50 sélections. Eh bien, les Anglais seraient bien vus de faire la même chose, peut-être de leur côté, ou en tout cas d'être un peu moins restrictifs sur ce genre de règles.
Mais d'ailleurs, Nick Abandonon a été très acerbe à ce niveau-là, n'hésitant pas à critiquer son sélectionneur dans la presse.
18h20, mêlée du lundi, donc spéciale Coupe du Monde, défaite britannique. Et on vous offre le hors-série Sud-Ouest Coupe du Monde 2015, 05 56 19 10 10.
Juste, on va remercier Arnaud Carré qui était avec nous en direct à Cardiff, parce que les conditions météo ne sont pas terribles. En plus, apparemment, l'apocalypse continue sur la Grande-Bretagne, Arnaud, non, c'est ça?
Oui, enfin la pluie commence, parce que l'été indien était superbe, hein, et depuis ce week-end, l'élimination de l'Angleterre, l'impression que le ciel pleure cette élimination.
Eh ben écoutez, il pleure l'élimination.
Salut Arnaud.
Ça fait sourire certains en studio. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été en direct avec nous.
Et il y a un dossier évidemment mondial 2015 sur francebleu.fr. À tout de suite.
Des experts.
Quand les mamans travaillent, quelle est la place des papas? Le docteur Philippe Tédo, pédopsychiatre, vous donne des conseils pour une organisation familiale équitable et harmonieuse.
Les experts avec Rodolphe Martinez, demain dès 9h. Avec EDF Entreprises, en cas de fuite d'eau ou de panne d'électricité, vous pouvez compter sur un dépannage rapide. Que vous soyez un professionnel ou une PME, avec les services assistance dépannage d'EDF Entreprises, des spécialistes vous répondent 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes dans un délai de 4 heures pour la plomberie et de 2 heures pour l'électricité. La garantie de ne pas perdre de temps.
EDF Entreprises innove pour votre compétitivité. Conditions de l'offre sur edfentreprises.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Pour ma société, je me suis assuré à la Matmut.
Oh. Tu vas enfin pouvoir être assuré.
En plus, j'ai pris aussi la complémentaire santé pour mes salariés.
Oui, pour qu'ils soient bien protégés.
Avec la Matmut, j'ai couvert mon activité et mes salariés.
Ça, avec la Matmut, tu assures pour l'avenir. Hein.
France Bleu présente Kortsu, l'album de la rencontre musicale entre Corse et continent. Kortsu, toute l'émotion des voix du patrimoine corse accordée aux plus grandes voix de la chanson française. 16 duos d'exception. Kortsu. Un pont entre Corse et continent.
Un album unique, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Événement exceptionnel à Bordeaux. La venue de Mélodie Gardot, dimanche 15 novembre, 19h, au Nouvel Auditorium. Les influences jazz, folk, fado, bossa nova font de Mélodie Gardot une interprète hors pair. France Bleu Gironde a le plaisir de vous inviter au concert de Mélodie Gardot, dimanche 15 novembre, 19h, à l'Auditorium de Bordeaux.
Pour vous rendre à l'Auditorium de Bordeaux, tram, ligne B, arrêt, Gambetta.
La mêlée du lundi.
Avec ce soir notre consultant rugby Vincent Charlot, Jean-Yves Saint-Séran, journaliste à Bordeaux Sat et Reuters, Clément Carpentier, France Bleu Gironde. Et on reste, Jérémy Marallier, sur cette défaite contre l'Australie. Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers. Il y a eu plein de slogans qui ont été détournés, notamment sur Twitter, et qui nous amusent beaucoup. Retour donc sur ce fiasco, cette défaite contre l'Australie. Il y a quand même eu une scène importante, c'est à la fin du match, la haie d'honneur des Anglais éliminée. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et fair play.
Mais ils ont respecté le fair play, justement.
Non, Jean-Yves n'est pas d'accord, il fait la grimace.
Ah, c'est assez.
Ouais, je trouvais ça cool, plutôt bien.
Ah, c'est régulier, tout le monde fait ça, je vois pourquoi ils l'auraient pas fait.
Ils auraient plus qu'à bouger en plus, les gaillards.
Non, c'est un minimum. Non, par contre, ce que disait Vincent tout à l'heure, ils sont vraiment tombés sur une super équipe d'Australie. Ça n'a rien à voir avec la valeur globale de la prestation anglaise.
Elle vous a vraiment impressionné, Jean-Yves Saint-Séran, cette équipe australienne.
Oui. Et on parlait de ces fameuses recrues de l'UBB. Un pilier comme Kepu est une véritable pépite. Quant à Ashley Cooper, sur le dernier essai, un superbe cadrage. Ouais. Et je donne, tranquillement, tout dans le bon ordre. Non, je pense que... Monsieur Marty a fait le bon choix.
Vous semblez être tombé amoureux de Kepu, en tout cas.
Ah oui,
tout à fait. Ça s'entend dans votre voix. Vincent Charlot, pareil, cette équipe australienne, elle est vraiment impressionnante. Si on dit qu'elle est peut-être au-dessus du lot en ce moment, c'est le cas ou pas?
On regarde tous les matchs qu'on a pu voir ou qui se sont disputés. Je les ai pas tous vus parce que je fais pas que ça quand même. Mais effectivement, l'Australie là, elle a montré que elle avait les capacités d'aller taquiner ce titre de champion du monde. Là, on a vu sur les fondamentaux, ils ont été très forts et performants en mêlée vous ont quand même particulièrement bousculé les Anglais, et à des moments importants en plus, où sur des mêlées très importantes pour l'Angleterre, ils ont été chercher des pénalités. Une défense intraitable avec une capacité à récupérer les ballons et jouer les turnovers. Et derrière, de l'efficacité dans leur jeu offensif, où dès qu'il a fallu accélérer, ils ont créé des situations tranchantes qui leur a permis d'aller marquer. Donc quand on met tout ça bout à bout, on voit une équipe homogène,
une équipe
qui se pose pas de questions et qui est sûre de son rugby. Et en tout cas, qui a pas été bousculée. Donc,
oui, parce que quand on parlait de l'Australie, on parlait d'abord de son jeu offensif à la base de cette capacité là. Mais Clément Carpentier, quand on voit le match de la troisième ligne australienne, Hooper, Pocock, c'était monstrueux, ouais, simplement contre l'Angleterre. Ils les ont concassés.
Oui, et puis au-delà de ça, c'est que la défense qui était très impressionnante en première mi-temps, parce que les Anglais, on dit, ils se sont éliminés, ils n'ont pas forcément été très bons. Moi, je les ai trouvés quand même sur des grosses séquences de 2 minutes, 2 minutes 30. Et les Australiens qui tenaient, puis qui finissaient par aller gagner le ballon dans le ruck, il n'y a pas toutes les équipes du monde qui peuvent résister comme ça. La France peut-être, parce que c'est vrai qu'elle a une grosse défense aussi, l'Irlande aussi aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'une équipe comme les All Blacks, par exemple, ils tiennent la défense comme ça pendant 2 minutes 30. Non, ils ont vraiment progressé, et je suis d'accord avec Vincent, ils sont très très sûrs de leur jeu. On sent que tout est fait au millimètre, c'est réfléchi, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire à quel moment.
Des mois et des mois.
Quand vous voyez l'essai qu'ils mettent, le deuxième essai qu'ils mettent, où il fait un inversement de jeu, le numéro 10, on n'en parle pas beaucoup de ce Bernard Follet, qui a quand même mis deux essais, qui est un joueur qui est peut-être connu pour les connaisseurs de rugby dans le Super 15, mais qui aujourd'hui éclate à la vue de tout le monde, je pense, lors de cette Coupe du Monde, et qui sera peut-être la star de cette Coupe du Monde si son équipe va au bout. Mais c'est exceptionnel. Et c'est pas fait comme ça, la va-vite, il va pas faire un inversement de jeu comme ça d'un seul coup. C'est vraiment, c'est réfléchi. Et moi, je pense que c'est aussi une grande performance de leur entraîneur, Michael Checker.
Ouais, pour revenir à Bernard Follet, hein, cet ouvreur, 28 points contre l'Angleterre, un jeu au pied parfait. Il y avait des hésitations hein, jusque-là avec Quade Cooper, par exemple.
Sauf que c'est pas le même, on va demander.
Pas la même réussite au pied. Par contre, l'Angleterre, dans les choix qu'a effectué donc Lancaster, il y avait cette problématique entre le choix de Ford et le choix de Farrell. Et visiblement, Ford qui a été
mais ce qui est incompréhensible,
normalement le premier au niveau du tournoi, qui avait fait un tournoi fantastique, il n'était pas titulaire, c'est Farrell qui l'a été. Moi, j'ai un petit doute par rapport à ça.
Mais oui, c'est très bizarre qu'il ait pas été titulaire, puisqu'il a été titulaire en plus pendant les matchs de préparation, même pas depuis un an, c'est lui qui est titulaire. Et là, juste, le jeu, il fait une bourde la semaine dernière où il va en touche, mais en plus, c'est son capitaine qui lui demande. Et d'un seul coup, on lui fait payer direct sa titularisation et on met Farrell, qui lui, pour le coup, a eu sa chance il y a déjà 3 ans, il y a 2 ans, et il s'était fait piquer sa place parce qu'il avait pas le niveau. Donc finalement, je pense que oui, là, il y a eu un gros problème.
Quand il n'y a pas très mauvais choix aujourd'hui, qu'on critique le sélectionneur Lancaster, l'exemple du 15 de la Rose. Vincent Charlot, c'est pareil. Ce débat autour des choix faits par le staff anglais, il y a eu des erreurs de commises pendant cette Coupe du Monde.
Je pense que si on... Alors après, on n'est pas dans les staffs, on n'est pas dans la vie du groupe, donc c'est toujours difficile d'analyser qui est plus à posteriori, mais il y a quand même Farrell, il avait pour lui cette capacité d'être très performant au pied, et peut-être que c'est la carte qui a été jouée.
Mais peut-être que c'est pas le projet de jeu depuis 3 ans.
Sur un match en jeu, à couteau tiré, peut-être qu'il va jouer à la 78e sur une pénalité à 50 mètres. Peut-être que le choix s'est porté vers une régularité du jeu au pied. Force est de constater qu'ils n'étaient pas au niveau des Australiens, donc ça a pas été un choix stratégique payant. Mais effectivement, je pense que Ford aurait amené peut-être un peu plus d'efficacité, de rapidité au regard de ce qu'il a pu proposer en équipe nationale depuis un an.
Alors certes, c'est un cataclysme, hein, il faut le dire aujourd'hui pour l'Angleterre, mais cette équipe, Jean-Yves Saint-Céran, elle est quand même très 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 jeune. Il reste de grandes échéances à venir dans le futur, même si là, aujourd'hui, c'est raté, mais il ne faut pas tout jeter non plus.
Prochain tournoi, vous les verrez, ils seront là, il n'y aura aucun problème. Vraiment aucun problème. Il n'y aura peut-être pas Burgess qui sera là, mais les Joseph, les Ford, les Watson, oui, ils seront là, sans aucun problème. Et bon, Joseph, on s'était extasié sur ses performances lors du tournoi Six Nations, il n'a pas changé. Bon, il était un petit peu blessé, il a été sorti du moment de la sélection, mais sa performance est extrêmement bonne. Par contre, que faire devant la qualité défensive de ces Australiens? Pas grand-chose. Hein.
Quelle équipe peut répondre à ça? Difficile de le dire aujourd'hui, en tout cas.
L'équipe qui sera en mesure de leur imposer du défi physique et de gagner le rapport de force. Voilà. Même si on est bien organisé, si on recule à un moment, on craque. Ça n'a pas été le cas, là, des Anglais qui n'ont pas été assez tranchants dans le rapport de force pour déséquilibrer la défense.
Mais quand on parle rapport de force, on pense à la France, quoi, forcément.
Évidemment, oui.
Évidemment.
Ouais. La mêlée française, oui, évidemment, on en parle. Ça pourrait être une équipe qui nous convient. En tout cas, on verra si on les joue en demi-finale, notamment.
Mais c'est vrai que faut-il arriver jusque-là.
Nous, on a le jeu pour les embêter en restant poli. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour nous. Mais sinon, après, on voit pas beaucoup d'équipes qui pourraient les chahuter, à part évidemment les All Blacks aussi.
Les Sud-Africains.
On espère en tout cas que les Bleus auront l'occasion d'embêter ces Australiens. Ce serait en demi-finale, peut-être, si cela se produit.
Il faudra passer face à l'Irlande d'abord. On va se projeter dans la suite de la mêlée, sur ce France-Irlande de dimanche. Et puis les adversaires, évidemment, potentiels pour les quarts de finale. 18h30, vous écoutez France Bleu Gironde, c'est la mêlée du lundi.
La mêlée du lundi sur France Bleu Gironde passe au crible l'actualité du rugby et de l'Union Bordeaux-Bègle.
On fait la route ensemble avec Murprotec Gironde, solution définitive contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
18h30, le trafic et les travaux sur la métropole bordelaise. On va retrouver Aurélie au PC Circulation avec une zone de travaux qui n'est pas facile. Ça risque de perturber les conditions de circulation de ceux qui empruntent la rue Turenne, notamment aux heures de pointe, Aurélie.
Effectivement, les travaux se poursuivent rue de Turenne. Jusqu'au 28 octobre, elle est fermée à la circulation entre la rue Abbé de l'Épée et la rue du Palais Gallien. Une déviation est mise en place par la rue Abbé de l'Épée, la rue du Docteur Albert Barrault, la rue Émile Fourcan et la rue du Palais Gallien.
Travaux qui donc vont durer, Aurélie nous le disait à l'instant, jusqu'au 28 octobre. Toutes les infos, trafic évidemment, travaux sur le site de Bordeaux Métropole. Pas de fermeture du pont Chaban pour les prochains jours. La prochaine, ce sera pour le 10 octobre, donc pour la journée de samedi entre 18h15 et 20h. Et puis le trafic route cette fois-ci sur la rocade. Ça s'est bien amélioré, le pont d'Aquitaine dégagé dans les deux sens de circulation. Ça va mieux sur le pont François Mitterrand à Bègles. Il y a encore un ralentissement en extérieur en remontant vers Paris entre les sorties 20 et 22. Et puis, Rocade Ouest, ça ralentit, ça coince. Allez, ça va doucement entre la sortie 10 Bordeaux-Codéran et le secteur de la sortie numéro 13, sortie Pessac-Centre, Pessac-Lalouette. Et puis, pour le reste du département, peu de soucis. Trafic fluide sur les accès à Bordeaux par l'autoroute A10. L'autoroute de Bayonne sans aucune difficulté. L'autoroute de Toulouse est dégagée dans les deux sens. Attention toutefois à cette voiture en panne sur l'autoroute de Toulouse, sur la 62, en direction de Toulouse, à hauteur de Saint-Pierre-de-Mons, au niveau en fait de la jonction avec l'autoroute de Pau. Et puis toujours cette voiture, véhicule accidenté à Saint-Émilion, au nord de Saint-Émilion, précisément donc sur la départementale 122 en direction de Saint-Émilion, dans le sens montagne, donc vers le sud, juste avant d'arriver sur l'entrée de Saint-Émilion, donc en direction du sud. Soyez vigilants sur cette départementale 122. Visiblement, le véhicule n'a toujours pas été dégagé.
Une astuce route pour contourner un bouchon? Soyez solidaire. 05 56 19 10 10.
Stevie Wonder, Isn't She Lovely sur France Bleu Gironde, 18h36.
France Bleu Gironde, la radio des supporters du rugby en Gironde.
Et on va mettre en jeu le très beau livre de Benoît Kerjean et Jean-Luc Labourdette, maillot et écusson rugby, histoire et anecdotes aux éditions de La Martinière. Si vous êtes le quatrième appel, 05 56 19 10 10, vous gagnez ce livre sorti aux éditions de La Martinière. C'est la mêlée du lundi ce soir avec Vincent Charlot, consultant rugby de France Bleu Gironde, Jean-Yves Saint-Séran de Bordeaux 7 et Reuters, Clément Carpentier, France Bleu Gironde. Et aux manettes ce soir, Jérémy Marillier. On va continuer à avancer avec ce match qui nous inquiète face à l'Irlande. La France va jouer dimanche.
Et oui, c'est l'avenir des Bleus qui va se jouer cette semaine. C'est la finale que tout le monde attendait, le match décisif pour la première place de la poule D. France-Irlande, dimanche à Cardiff. Les deux pays ont tout gagné pour l'instant. C'est assez simple. Ce sera le moment de vérité, Jean-Yves Saint-Séran, faut le dire.
Oui, encore qu'ils ne m'ont pas impressionné hier, vraiment. Mais avec une très très belle équipe d'Italie.
Les Irlandais face à l'Italie. Ouais.
Très belle équipe d'Italie. Le retour de Paris, c'est comme quoi, quand on retrouve son papa, tout va bien. Et ils ont fourni des séquences défensives tout à fait intéressantes. Dommage que notre cher ami Fourneau ait mis ce pied en touche, le deuxième ligne chevelu, qui aurait pu donc donner une autre tournure
à
ce match.
Il était à deux doigts de marquer un essai qui aurait permis aux Italiens de revenir dans le match en deuxième.
L'Irlande ne bouge pas, je trouve qu'elle est fidèle assez, assez fondamentaux, avec des stats en touche qui sont particulièrement impressionnantes, du 100% de tous les côtés.
Pareil, Vincent Charlot, quelle impression vous a laissé cette équipe irlandaise? On sent que pendant deux matchs, voilà, c'était pas très compliqué, et puis que face à l'Italie, c'était par contre plus difficile, plus laborieux.
Bien organisé. Moi, j'ai trouvé que c'est une équipe relativement organisée et qui a manqué d'audace hier contre l'Italie. Il y a eu quelques séquences à jouer intéressantes. Là, il y avait de la place sur les extérieurs pour essayer de dynamiser un peu. Et je pense que les consignes étaient plutôt à occuper le terrain. Et en deuxième mi-temps, il y a quand même eu un paquet de chandelles là pour mettre la pression sur les Italiens. Et je pense que les Irlandais ont manqué d'audace et ils ont gardé quelque chose sous le pied ou match. Bien organisé, mais
c'est sans ça, plus. Il fallait gagner, mais sans
pas
plus.
Abouti, pas abouti.
Ce manque d'audace irlandais, vous l'avez noté aussi, Clément Carpentier.
Bon, en fait, avec l'Irlande, j'ai l'impression de voir la France. Des fois, pour moi, c'est exactement les mêmes équipes. C'est que ça manque un peu de talent quand même au bout d'un moment. Même si je pense que les Irlandais en ont beaucoup plus que nous et que hier ils ont manqué d'audace, c'est exactement ça. Ils ont joué simplement derrière leur numéro 10 qui gère parfaitement tous ces matchs.
On a vu Jonathan
Sexton, voilà, qui est impeccable, qui pour le coup, on va voir si Frédéric Michalak va être capable de se mettre à son niveau, mais qui est peut-être aujourd'hui le meilleur ouvreur au monde. En tout cas, depuis un an, il est dans la forme de sa vie, Jonathan Sexton. Ouais, après les Irlandais, j'ai l'impression que c'est l'équipe de France, c'est-à-dire une grosse défense, une bonne conquête, et puis après on voit ce qui se passe sur le terrain en gros.
On va s'ennuyer dimanche, c'est ça ce que vous me dites.
Moi j'ai peur qu'on s'ennuie ou que ça parte dans tous les sens. Voilà, ça va être acquis tout double, je pense, ce match. Après, c'est vrai qu'ils ont une touche exceptionnelle qui est peut-être la meilleure touche aujourd'hui au monde avec un alignement fantastique. Nous, on a peut-être la meilleure mêlée au monde aujourd'hui, donc on verra bien comment ça va se jouer devant. Après, oui, moi j'ai peur d'un peu m'ennuyer, en tout cas de voir deux équipes qui sont vraiment jumelles et qui se ressemblent beaucoup dans la façon de jouer, en s'appuyant sur les mêmes points forts et peut-être avec les mêmes faiblesses aujourd'hui.
On a évoqué Jonathan Sexton, le duel Sexton-Michalak, ce sera une des clés, Jean-Yves Saint-Séran.
Certainement, mais ils ne sont pas dans le même rôle. Jonathan Sexton a aussi une fonction qui est celle de déplacer le jeu et de vraiment libérer son équipe de la pression adverse. C'est pas le cas de Michalak, puisqu'on a recruté notre cher ami Spedding pour cela. Ce qui a pour but de donner des grands coups de Satan pour aller revenir dans le camp irlandais. Donc, pas tout à fait la même position de jeu. Par contre, au niveau de l'animation, oui, c'est clair. Ils se retrouvent dans un match à match qui peut être intéressant. Mais je verrai pas, moi, uniquement dans un cadre de duel. Je pense surtout qu'il y aura une bataille des rocs qui risque d'être véritablement très intéressante avec des O'Mahony, nous, et avec notre troisième ligne, notre cher Thierry Di Sautoir qui
Vous êtes d'accord là-dessus, Vincent Charlot, sur ce duel de rock va annoncer qu'il va
être terrible. Je pense que ça sera un match, ça sera d'un autre registre que Australie-Angleterre qu'on a pu vivre samedi, en termes de volume de jeu, mais je pense que ça sera un match à très haute intensité où chaque point de rencontre, ça va ferrailler sec, parce qu'effectivement, avec deux équipes qui ont une capacité à récupérer le ballon et des joueurs qui sont performants autour des points de fixation là sur à la fois offensivement et défensivement. Donc je pense que ça va être le duel, il va être là.
Moi, ce qui m'inquiète un peu côté français, c'est que oui, en effet, il y a deux troisième lignes qui vont s'affronter et tout. Mais le problème, c'est qu'on est beaucoup plus indiscipliné que les Irlandais depuis le début de cette Coupe du Monde. Alors sur un match, on peut peut-être se reprendre. Déjà contre le Canada, il y avait un peu mieux, on va dire, que par rapport à la Roumanie et l'Italie, où on a été l'équipe la plus pénalisée depuis le début de la Coupe du Monde au bout de deux matchs. Donc voilà, faudra se méfier des pénalités parce qu'en plus avec un buteur comme Jonathan Sexton, ça va se payer cash tout de suite. Donc c'est peut-être là le petit désavantage des Français, en tout cas dans la discipline.
Et moi, je verrais même aussi, c'est s'ils se font contrer physiquement, d'avoir les ressorts nécessaires pour s'adapter au cours du match. Je pense que la difficulté française, elle est là.
Est-ce que les Bleus ont une capacité d'adaptation?
Un plan B,
justement.
Un plan B, c'est la question. Je suis pas sûr que s'ils n'arrivent pas à jouer dans l'affrontement, ils soient capables de jouer dans le mouvement.
Il y a une bataille médiatique qui se joue aussi en ce moment avec les Bleus qui se placent en position d'outsider.
Oh, ça, on adore ça,
ça a l'air de leur plaire de se placer dans cette situation-là. C'est de la communication pure et simple, Jean-Yves Saint-Céron. C'est vraiment la réalité à leurs yeux.
Si on regarde le tournoi, moi je pense que c'est aussi une partie de la réalité. Ils ont totalement raison.
Le placement mondial aussi.
La vérité est là. Bon, je pense qu'ils ont raison de se mettre tranquillement à l'abri de cette vision de favori qui, en fait, sur la Coupe du Monde, on l'a bien vu. Hein, vu la préparation des équipes, vu la condition physique des joueurs actuels, et vu en plus les schémas de jeu qu'on retrouve de plus en plus proches. C'est le cas, on en parlait pour la France et l'Irlande, mais l'Afrique du Sud, je peux pas vous dire, c'est une machine de destruction, c'est la même chose, hein. Vraiment la même chose. Peut-être avec un jeu de ligne un peu plus évolué, mais on se retrouve quand même avec du combat devant. Actuellement, ceux qui n'ont pas de combat devant cèdent.
On parle du combat de devant. Dans la composition de l'équipe de France, il y a toujours un débat. Il n'est pas devant, il est plutôt sur les lignes arrières avec ce poste à l'aile laissé libre depuis la blessure de Johan Hugé. Bien sûr, en tant que Bordelais, on pense à Sofiane Guitoun, mais dans l'esprit de Philippe Saint-André, il semblerait qu'un certain Brice Dulin tienne la corde. Alors Brice Dulin, à l'aile, face à l'Irlande, est-ce que ça vous emballe, messieurs? Vincent Charlot, est-ce que ça vous emballe ou...
Il y a une chose sûre, c'est que je peux faire speeding à l'arrière, donc, mais je réponds pas à la question là.
Non, pas du tout.
Non, je sais pas. Effectivement, si on se base sur les matchs de préparation, il a semblé être en perte de repères à l'aile. Maintenant, c'est des joueurs de très haut niveau, donc ils ont quand même une capacité d'adaptation. Ça fait un mois qu'ils bossent, qu'ils vivent ensemble, donc on peut partir du principe que ça peut faire.
Justement, on doute des capacités d'adaptation du 15 de France depuis quelques minutes. Sur le cas précis de Brice Dulin, ça peut poser des soucis.
Après, encore une fois, ça dépend stratégiquement ce qu'on recherche. Si on est dans le rapport de force et jouer l'opposition, on met Grosso, il va courir sous les ballons hauts, il va aller détruire l'arrière ou les liens adverses, et il sera costaud sous les ballons hauts que Sexton y va mettre. Voilà, mettre un feu follet quand il y en a un ou deux sur le terrain et que c'est pas organisé, on n'est pas dans l'efficacité.
Clément Carpentier, je sens que l'option Dulin n'est pas celle que vous préférez non plus.
Non, pas du tout. Moi, je pense que Sofiane Guitoun a sa place et surtout mérite sa place. Oui. C'est surtout ça. Et le problème de notre ami Saint-André, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas selon le mérite, mais il fait selon l'expérience et l'histoire personnelle qu'il a avec le joueur, qui fait que Brice Dulin est un de ses joueurs préférés dans le 15 de France, qu'il l'a toujours fait jouer. Malheureusement, il y a Spedding qui est arrivé à un moment donné, il a été obligé de le mettre sur le banc parce que ça se voyait, tout le monde le voyait, et tous les journalistes et même les 60 millions de Français ont bien vu que Spedding était meilleur ces dernières années que Dulin. Donc voilà, donc maintenant il essaye de trouver une place à Brice Dulin, donc il essaye à l'aile. Moi, à l'aile, j'ai regardé le match contre le Canada, il a strictement rien fait. Sofiane Guitoun avait joué contre la Roumanie, il a mis deux essais sans faire un match exceptionnel, mais il a mis deux essais. Donc si vous faites une composition d'équipe par rapport au mérite des joueurs, c'est Sofiane Guitoun qui doit être titulaire et non Brice Dulin ou Rémi Grosso.
En un mot juste, messieurs, Guitoun, Grosso, Dulin, vous nous dites votre choix.
Nakaitachi.
Ah, très bon ça.
Oh, ne pas répondre, c'est aussi une réponse.
Bien sûr, Sofiane.
Vincent Charlot.
Sofiane Guitoun aussi.
Oui, bah moi je crois que vous avez compris, Sofiane Guitoun, bien sûr.
Allez, 100%.
France-Irlande dans la poule des matchs à suivre, évidemment, donc dimanche 17h45. La mêlée du lundi continue et on félicite Élodie de Grignols qui remporte le livre de Benoît Cargeon et Jean-Luc Labourdette, Maillot et Cuisson, aux éditions de La Martinière. Vous pouvez continuer à gagner les hors-séries Sud-Ouest spéciale Coupe du Monde 2015.
Bonjour, c'est Michel Cardoz. Tous les matins à 7h55, je prends plaisir à vous raconter des histoires, mais pas n'importe lesquelles. Des histoires de notre ville, de notre département, de ses personnages, l'estuaire, les vignes, le fleuve, les châteaux, l'histoire. Allez, je vous dis à demain à 7h55.
France Bleu.
Vous avez envie de vous mettre à votre compte ?
Du 5 au 11 octobre, des commerçants franchisés témoignent de leur expérience de chef d'entreprise. Pour en savoir plus sur la création d'entreprises en franchise, une conférence est organisée dans les locaux de la CCI à Bordeaux le 6 octobre de 14h à 18h. Renseignements sur www.semaine-franchise.com. La semaine pour entreprendre en franchise, une opération organisée par la Fédération française de la franchise.
Comment protéger mon conjoint en cas d'imprévu ?
Plutôt Pax ou plutôt mariage ?
Comment fait-on pour acheter un bien en famille ?
Puis-je continuer à vivre dans la maison que j'ai donnée à mes enfants ?
Quel est le meilleur statut pour mon entreprise ?
Comment protéger mon conjoint en cas d'imprévu ?
Immobilier, famille, couple, entreprise, besoin d'un notaire ? La personne la mieux placée pour vous conseiller est toujours là pour répondre à vos questions.
Les notaires de Gironde vous conseillent. Il y a toujours un notaire près de chez vous. Info, lesnotaires.fr.
Pour moi, chef d'entreprise, chaque seconde compte. Dès janvier 2016, la mutuelle d'entreprise pour mes salariés est obligatoire. Pourquoi attendre ? Moi, j'ai choisi la Mutuelle Générale.
Vous aussi appelez la Mutuelle Générale. Nos conseillers sont disponibles pour vous proposer la solution santé adaptée à votre entreprise. Appelez vite le 3035. 3035, appel gratuit depuis un poste fixe.
Alain est chef de chantier. Avec l'accord de son employeur et son compte personnel de formation, il va pouvoir se former pour devenir conducteur de travaux. Aujourd'hui, avec le compte personnel de formation, salariés et demandeurs d'emploi sont acteurs de leur parcours professionnel. Activez dès maintenant votre compte sur moncompteformation.gouv.fr.
Compte personnel de formation ? Me former, j'y compte bien.
Le 6 octobre, c'est la journée nationale des aidants dont la Massif est partenaire. La Massif apporte des réponses concrètes et solidaires aux aidants. Retrouvez les événements organisés par la Massif sur le site aveclesaidants.fr.
France Bleu Gironde, radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles.
Avec ce soir Vincent Charlot dans la mêlée, Jean-Yves Saint-Céran, Clément Carpentier et Jérémy Marillier. C'est la dernière partie de l'émission. On va revoir un petit peu ce qui va se passer, en tout cas du côté des adversaires pour les quarts de finale.
Ouais, on va se projeter un petit peu plus loin que ce match face à l'Irlande dans cette Coupe du Monde pour les Bleus, avec nos deux potentiels adversaires en quarts de finale, l'Argentine, la Nouvelle-Zélande. On va être optimiste, on va commencer par l'Argentine. Si la France bat l'Irlande ce dimanche, des Argentins séduisent contre les Blacks, ça a été plus compliqué hier face aux Tongains. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette équipe argentine, Jean-Yves Saint-Céran ?
Même problématique, je pense, que pour toutes les autres équipes qui sont favorites par rapport à des équipes des îles. On va se retrouver d'abord avec un énorme combat, à part le Samoa, qui est passé totalement à côté, ouais, contre le Japon. Mm-hmm. Et puis voilà, ils ont ferraillé pendant une bonne période, pendant la première mi-temps et une bonne partie de la deuxième mi-temps. Et puis grâce à Nicolas Sanchez, je ne suis pas certain d'ailleurs que ça soit celui du bébé.
Je me suis vraiment demandé si c'était le bébé.
J'ai un gros doute par rapport à ça. Grâce à
un frère jumeau, peut-être, qui sait.
Il est superbe, il est vraiment superbe, et il les remet en selle, non seulement par son jeu.
Nicolas Sanchez, qu'on connaît bien ici, Vincent Charlot, pareil, il a quelque chose de complètement différent. C'est un leader désormais de l'équipe d'Argentine.
Oui, c'est le leader de l'équipe d'Argentine, c'est celui qui est capable d'accélérer ou freiner, qui gère le jeu. Très bon joueur, et c'est pas l'image qu'il a laissée à l'UBB, mais c'est un contexte un peu particulier, parce que pour lui, il sortait des Four Nations, il n'a pas participé à la préparation. Bref, non, l'Argentine, je pense qu'elle sera au rendez-vous aussi en quart de finale, et ça sera pas. Un passage facile en quart de finale si c'était l'Argentine, parce qu'on connaît la valeur des Argentins, et je pense qu'en statistique de Coupe du Monde, l'Argentine, elle nous réussit pas. Alors statistiquement, contre les Blacks, on est meilleur, contre l'Argentine, on est moins bon. Donc, je ne sais pas.
Justement, les Français adorent être dans une position d'outsider. Ne pas affronter l'Argentine, affronter les All Blacks. En plus, l'Argentine, la bête noire des Français, on l'a rappelé. Est-ce que ça pourrait pas être un mal pour un bien d'affronter les Blacks dès les quarts de finale, Clément Carpentier ?
Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Merci de me poser cette colle, mais je vois pas comment.
Allez-y, vous avez deux minutes pour répondre.
Répond, non, mais moi, j'ai pas envie de jouer les Argentins, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai le souvenir de 2007, et puis même de tous les matchs couperets à chaque fois qu'on joue contre les Argentins. C'est des joueurs, très très bons et puis qui sont chiants clairement à jouer, et nous on n'aime pas du tout ça justement. Après moi je les ai trouvés un peu décevants, ouais, hier. Je les trouve intéressants offensivement, mais défensivement c'est le Tonga quand même en face, ils ont mis plusieurs fois le feu. Il y avait une équipe qui était efficace, l'autre non, et ça aurait pu tourner beaucoup plus mal pour les Argentins, je pense notamment sur la première mi-temps. Après les Blacks, bah il faut voir, hein. C'est toujours pareil, hein. Les Blacks, on a toujours ce destin où on croit qu'on va réussir à les battre et ça va le faire. Bah il y a 4 ans, ça l'a pas fait en finale, bon c'était en quart de finale. Mais les Blacks, ça reste les Blacks et je préfère les jouer le plus tard possible.
Justement, les Blacks, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore tout à fait commencé leur Coupe du Monde, des matchs à leur portée, qu'ils en gardent encore sous la semelle, qu'ils ne dévoilent pas tout pour leurs adversaires. Est-ce que c'est ce qui vous...
Là, ils en sont au footing.
Le footing.
C'est vraiment, ils sont au footing. Moi, je pense qu'ils sont au footing réellement. Mais là, ils sont dans les réglages.
Et ils sont chaque fois comme ça. Et c'est toujours un démarrage très long.
C'est pas le problème, parce que j'ai vu quelques courses de leur arrière. Là. Oh, c'est incroyable. Ils ont des lignes arrière fantastiques.
L'incertitude des Blacks, c'est le premier match avec de l'engagement qui, parce qu'ils sont, ils ont pas été dans cette situation-là. On voit les Australiens contre les Anglais, ils ont fait le match référence pour l'instant de Coupe du Monde. Les Français, les Irlandais, ils auront joué un match au moins à grosse intensité. Les Blacks, à part le match d'ouverture de leur ouverture Coupe du Monde contre l'Argentine, derrière 3 matchs relativement faciles. Le quart de finale, il faut quand même hausser le ton.
C'est toujours un match particulier.
C'est toujours un match un peu
sport,
particulier. Ouais,
hein, c'est
donc on sent que ces Blacks, c'est toujours un peu le problème qui peut leur arriver comme ça d'un coup, c'est de dérouler pendant plusieurs semaines et tout d'un coup, bam, de se retrouver face à une adversité, de ne pas pouvoir répondre tout de suite.
C'est le problème. Après, dans l'histoire de la Coupe du Monde, l'année où les Français les battent en quart de finale, c'est ils étaient dans une poule facile et je pense qu'ils sont tombés sur le premier os. Ils ont trouvé.
Et comme par hasard, il y a 4 ans, quand ils ont réussi à gagner la Coupe du Monde, ils avaient joué la France en phase de poule, donc
avec
ils
avaient des matchs
vu
de bon niveau.
Ouais. Et puis après les Blacks, il y a une interrogation pour moi dans cette équipe, c'est que c'est aussi une équipe qui est en fin de cycle. Et les équipes qui sont en fin de cycle, vous savez jamais comment ils vont réagir à la fin. On l'a vu en club avec Toulon l'année dernière, qui s'est complètement planté sur la fin de saison. Et les Blacks, c'est pareil, ils ont des joueurs qui commencent à vieillir. Le coach les maintient dans l'équipe parce que ils ont un statut comme Mako, comme Dan Carter. Surtout, je pense à Dan Carter qui aujourd'hui, pour moi, au niveau du talent, même si ça a été pendant longtemps le meilleur joueur du monde, est dépassé par les autres numéro 10 néo-zélandais. Donc, faut voir aussi ce que ça va donner du côté All Black. Hein. Peut-être qu'ils sont pas si bien qu'on peut le croire, en fait.
Ils sont trop vieux, ces Blacks, Jean-Yves Sazeran, pour vous?
Non, trop vieux, c'est... Non, je pense que justement, l'Angleterre a payé cher pour avoir inscrit une équipe de genoux. Donc, il vaut mieux avoir une équipe de vieux roublards d'embêtants comme Mako qui sont encore capables de pourrir toutes les situations au niveau des rucks et de relancer cette équipe. Le choix entre Argentine et Nouvelle-Zélande est vraiment cornélien. Hein.
Tout à fait, c'est cornélien.
On ne peut pas répondre à cette question, Vincent Charlot.
Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'il y ait Sonny B. Williams qui joue. Hein.
Ah oui.
Là, on est d'accord parce que c'est pour moi celui qui à chaque fois est étincelant. Et qui sort les Néo-Zélandais de situations à chaque fois un peu difficiles. Sur chaque action, il est capable d'avoir la passe après contact qui va bien.
C'est un peu ces joueurs d'exception comme Guito,
toujours capable de faire la différence en n'importe quel moment.
Ou Follet, là, on voit aussi sur une action, ils vous font la différence. C'est vrai que nous, on n'a peut-être pas ce joueur-là. Fofana avait atteint ce niveau à un moment donné avec l'équipe de France et malheureusement il a rechuté depuis quelques mois. Mais c'est vrai qu'il nous manque peut-être ce joueur de talent et qui va faire basculer un match pour aller jusqu'au bout. Mais bon, pour l'instant on est encore loin. Il y aura l'Irlande ce week-end et puis après on verra.
On garde des ballons, on fait des ballons portés, on monte des quilles, on s'en mêle, ça devrait passer.
Tant qu'on gagne la Coupe du Monde, on sera très content.
Ça devrait passer.
L'audace à la française. Voilà, on va dire ça comme ça.
Rentrer Jeff Tordeau.
Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir dans la mêlée du lundi. Donc on l'appelle le rendez-vous avant d'envisager les quarts de finale. Ce sera dimanche, France-Irlande, la finale de la poule pour désigner la première place.
À 17h45, dossier spécial. Merci, bonne soirée. Merci Vincent Charlot,
merci.
Clément Carpentier. Merci beaucoup Jean-Yves.
Et God save the
Queen.
Un petit message pour les Anglais.
Merci beaucoup et vous retrouvez sur francebleu.fr le dossier spécial mondial 2015. Toutes les infos, évidemment, et on va suivre cette polémique autour de cette rencontre entre le staff et les officiels lors du match France-Angleterre. Bonne soirée, 18h55.